Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui au podcast, on a Zach, on a Rémi, mais surtout, on a notre invité, David Bocage. Salut Dave, comment ça va?
Salut les gars, ça va? Non, c'est pas vrai, ça va?
Radio FM.
Yeah, ça va. Ouais, ouais. C'est ça, on est un show du retour, puis là, on fake des rires.
Ouais, c'est ça.
Hey! Communiquer avec le 6-12-12.
Ouais. Bon, hey, là-dessus.
C'est vrai, c'est ça.
David, qu'est-ce qui occupe ton temps ces temps-ci là, avec le confinement, ben, là, le déconfinement qui s'avance de plus en plus? Là, qu'est-ce que tu fais de bon?
Ben là, moi, j'étais vraiment en mode scène cette année. Fait que c'était un drôle de timing parce que j'étais vraiment en train de me concentrer sur écrire un nouveau show, écrire une nouvelle heure, la roder, la présenter au ZooFest. Puis s'il y a une chose que la pandémie t'empêche de faire, c'est des shows. Fait que ça a été comme « Oh, ça a freiné vraiment sec ». Mais j'en ai profité pour travailler sur d'autres trucs, écrire d'autres trucs, faire des tunes pendant le confinement, créer d'autres affaires. Mais là, en ce moment, tu vois, là, tranquillement, ça commence à déconfiner. Là, il y a comme des nouvelles règles, comme quoi peut-être des 50 personnes par salle. Fait que là, les shows, tranquillement, ça se peut que ça recommence. Puis mon podcast, dans le fond, a fini juste avant la pandémie. Fait que ça, j'ai été chanceux à ce niveau-là. Mais là, tu vois, on est en train de commencer l'enregistrement de la saison 5 quand ça a frappé. Fait que là ça serait de tranquillement, là, avec des mesures sanitaires, de recommencer à enregistrer pour la saison 5. Vu que c'est à un, ça pourrait bien se faire, là, tu sais, à distance, dans un studio, placer ça à distance. Fait que là, c'est tranquillement, c'est comme de reprendre tout ça. Là, cette semaine, j'ai recommencé. J'ai fait un show au Wi-Fi Comedy Club, qui est un show par Zoom. Fait que éventuellement,
ça?
Ouais, c'était cool, honnêtement, c'était vraiment cool. T'sais, c'était comme un peu le next best thing, là, si on veut, dans le sens que ça remplacera jamais, évidemment, un vrai show puis la fin. Non. Mais ils sont vraiment bien organisés. T'as l'animateur d'un bar, t'as les humoristes de l'autre.
T'entends un peu de rire?
Ouais, t'as comme un retour de son. Okay. Fait que les gens allument leur micro, là, les gens qui n'ont pas, mettons, d'enfants puis 8 chiens, là, ils allument leur pour que tu entendes des retours. Puis tes voix, tu peux comme les voir sur ton ordi. Fait que, vraiment, c'est, pour vrai, c'est vraiment bien fait. C'est comme le plus proche de l'adrénaline d'un show que tu peux se retrouver. Fait que, mais, tranquillement, ça repart.
Mais là, tu disais, ton podcast, tu enregistres les saisons à l'avance.
Ouais.
Fait que tout est enregistré à l'avance. Et, genre, tu fais pas ça genre de fil en aiguille, tu fais ça d'une traite, puis après.
Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai un podcast dont le. Si on veut pas le mécanisme, mais c'est un podcast de booking, dans le sens que moi, je reçois des gens au podcast. Tu l'écoutes, je veux dire, pour l'inviter. Oui, pour moi, parce que tu sais, si t'en as écouté, tu veux revenir et t'as confiance, mais je veux dire, c'est le nom que tu vois, tu fais OK, je veux découvrir ce que cette personne-là. Fait que si Christopher, le temps, il est disponible le 11 juillet,
t'as pas le choix d'être disponible.
Ça va se passer, tu sais, ouais, c'est ça. Ça. Puis surtout que l'été aussi, mettons que on parle de joueurs de hockey ou de trucs comme ça, c'est là que les gars sont, tu sais, les gars sont en congé l'été, ils reviennent au Québec. Mm. Des fois, c'est pas nécessairement des joueurs, c'est plein d'autres personnes. Puis, si c'est des fois c'est un 12 novembre, mais c'est un 12 novembre. Fait que c'est pas vraiment que j'enregistre d'avance ou c'est plus que j'enregistre quand les gens peuvent. Fait que j'enregistre un peu à l'année, mais c'est sûr que l'été, on essaie de donner la claque parce que souvent il y a beaucoup de gars qui sont revenus. Il y a comme les gens sont en vacances, on a plus d'opportunités de le faire.
Est-ce que des fois tu reposes des shows pour pouvoir les recevoir vu que tu sais, t'as pas de chance?
Ouais, non, ben honnêtement, à la date, j'ai pas eu à faire ça. Je pense généralement, tu sais, c'est de. Parce que tu sais, aussi, mon métier premier, moi, c'est vraiment la scène.
Ouais.
Tu sais, je gagne. Tu sais, je veux dire, on a un Patreon avec le podcast pour garder le podcast en vie, tout ça. Mais tu sais, je me suis jamais mis une scène dans les poches avec le podcast. Fait que, tu sais, c'est vraiment.
La visibilité?
Ouais, ben, tu sais, oui. Puis surtout un projet de passion. Tu sais, je pense que c'est de créer un projet qu'on trouve qui est bon puis qui est nice pour vrai. Après ça, si là, ça commençait à jouer sur les shows, ça serait probablement plus difficile. Heureusement, tu sais, moi, je peux me préparer mes entrevues, puis mettons qu'on fait ça un jeudi après-midi, moi, je me pointe, puis la personne se pointe. Fait qu'il y a vraiment manière d'arranger ça, surtout qu'on a quoi, 26 épisodes par année. Si j'avais, mettons, 150 ou je sais pas, là, tu sais, les podcasts qui ont Joe Rogan ou je sais pas, quelqu'un, si sa job à temps plein, tu fais comme, non, comme tu peux pas faire ça à temps partiel, s'il faut que tu produises 150 épisodes par année, tu sais. Mais nous, on a la chance d'être sur un modèle saison de hockey, fait octobre, avril, un par semaine. C'est comme raisonnable, ça me donne un lousse pour le faire. Ouais.
Avec le confinement, t'avais-tu pensé peut-être en faire sur Zoom justement pour venir, tu t'es retrouvé justement sans show et tout, t'as-tu traversé l'esprit d'en faire des
spéciaux? Oui, ben, il y avait plusieurs, oui absolument, c'était un timing parce que tout le monde était chez eux et il n'y avait rien à faire, fait que les gars, les filles étaient comme moi, okay, il y avait comme une ouverture là. Ce qui est arrivé, c'est que moi j'ai décidé de faire des lives Instagram. Fait que j'ai fait des lives Instagram. Je voulais tester cette patente-là. Puis ça a donné des petits highlights aussi que j'ai découpés et que j'ai remis sur nos médias. Fait qu'on a créé du contenu de ce sens-là. Mon concern, ouais, si on veut, avec les enregistrements. Comme ça, c'était la qualité du son. Ouais. C'est ça, en fait, si tu regardes un Zoom, des fois, au moins, tu as l'image ou tu peux comme... Mais le Zoom, par exemple, là, c'est cool pour regarder de même, mais la qualité, c'est, parce que nous, c'est un podcast audio seulement,
n'est
pas top.
Ouais, c'est sûr.
Puis, s'il y a une affaire que j'ai appris en faisant des podcasts, c'est que si ton son n'est pas super bon, abandonne tout. Dans le sens que...
c'est comme l'élément clé.
Ah, c'est comme... Ah, c'est vraiment bon, là, ça peut être Wayne Gretzky puis Mario Lemieux qui parlent. La Marine Dot, si t'es pas capable de l'entendre, t'es comme, hey, tu vas arrêter d'écouter. Parce que t'es juste pas capable d'écouter, je suis pas capable d'entendre. T'sais. Fait que quand ça devient un effort, c'est pas le fun. Fait que ça, c'est l'affaire que je trouve qui est le plus tough. Il y en a d'autres qui ont commencé, qui en ont fait avec un autre programme. Là, tu demandes à des gens d'installer un programme sur leur dit. Des fois, là, c'est comme la step que le monde sont comme, hey, là, je m'en fous un peu. Fait que là, c'était comme un peu tout ça de genre, ah, ouais. Si la qualité est pour rendez-vous, moi, je pense que ça ne vaudra pas la peine. Puis, évidemment aussi, c'est sûr que c'est très différent aussi comme résultat que ça va donner, dans le sens que quand quelqu'un se pointe en studio, qu'on est one-on-one, je dis studio, mais c'est comme un local un peu décoré en pro shop, et il y a une interaction, on se rencontre pour vrai. C'est un peu là que la magie arrive, je pense, puis de la rencontre. T'sais, par Zoom, un peu, avec ton chien qui te saute dessus dans ta salle de bain, c'est différent aussi. Puis les deux peuvent créer des affaires vraiment nice. Mais pour moi, j'étais comme, vu que c'est de la longue entrevue aussi, moi, c'est comme, tu sais, on va faire une heure et demie, puis les gens s'en rendent pas compte souvent parce qu'on part, puis là, on jase, puis après ça, je leur demande à la fin, tu penses qu'on a fait combien de temps? Ça, je sais pas, une demi-heure, 45, puis je leur dis, une heure et demie qu'on parle. Mais s'ils étaient chez eux, ils sentiraient, je pense, ils seraient comme, ah, OK, là, ça fait genre une heure qu'on jase. Tu sais, c'est tough de plus laisser aller, là.
Ouais, je comprends.
Pour tous ces petits barèmes-là, puis pour créer un podcast, je pense qu'il est bon, puis une conversation fluide, puis être vraiment comme imprégné. Je trouvais que c'était tough à recréer, mais comme je te dis, j'en ai profité pour faire les lives, tu sais, qui étaient maximum d'une heure, mais tu sais, j'avais deux invités ou trois, je pense, deux fois 20.
C'était prévu, là, il t'a envoyé une demande, puis là, tout accepté.
Ouais, on se parlait, tu sais, Chantal Maccabée est venue, tu sais, puis c'était cool parce que aussi le live, c'est un peu comme ongoing, de comme, ben là, en ce moment, la ligue, on pense pas que ça va revenir. Ah, là, finalement, tu sais, tous les développements au fur et à mesure.
Ouais.
Ça m'a permis aussi d'établir des contacts avec des gars qui vont venir pour vrai au podcast. Tu sais, Max Lapierre, Jean-Sébastien D. Je sais qu'ils vont venir faire un épisode en bonne et due forme. Tu sais, mais là, on a eu comme un petit snippet, une bande-annonce de ce que ça pouvait être. Fait que ça, pour ça, ça a été cool. Puis aussi, ça nous a, ce qu'on a décidé de faire pour le podcast aussi pendant la pandémie, vu qu'il n'y avait plus de hockey. La soirée du hockey, on a fait la soirée du hockey quiz, fait que le samedi soir.
Ouais, ça, j'allais dire.
Samedi soir, on fait.
Mais ça, c'est en Zoom.
Ça, c'est en Zoom, c'est en live sur Facebook, par Zoom. Mais justement, il y a un support visuel, puis c'est pas un épisode que tu écoutes audio.
Ouais, non.
C'est vraiment un truc que tu regardes, quand on leur dit, que peut-être tu regardes en rediffusion, que tu check des bouts, tu sais, tout ça. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'on a fait comment? On va essayer cette patente-là, tu sais, puis ça a comme créé un rendez-vous. Hebdo qui était cool parce qu'on avait personne n'avait rien à faire pendant la pandémie. Tout le monde avait fini Netflix. Il n'y avait plus de sport. Fait que, ça a créé ça.
Est-ce que la réponse des invités, ça va bien de ce côté-là? Parce que tu sais, des joueurs de hockey, c'est occupé puis tout. Est-ce que des fois c'est difficile d'aller les chercher?
Pour le podcast, là, tu parles? Ouais. Honnêtement, c'est sûr que c'est le nerf de la guerre. Là. Je veux dire, c'est un podcast de comme j'ai dit, de booking. Fait aller chercher le monde. C'est le plus difficile. Après ça, si tu réussis à aller le chercher ou quand tu réussis à aller le chercher, c'est de faire des bonnes entrevues puis d'arriver préparé puis d'être bon. Parce que ça, évidemment, ça devient ton argument pour que d'autres personnes viennent. Après ça, si lui a du fun puis qu'il dit...
ça se passe le mot.
Si Guillaume Latendresse vient puis qu'il a du fun puis que je dis « Hey, ça serait cool que Max vienne », il peut pas dire à Max « Ah non, vas-y, c'est hot ». Non, pas.
Fait que c'est bouche à oreille.
C'est lourd qu'un podcast, mais je te dis, c'est lourd. C'est sûr qu'il ne viendra pas. T'sais. Mais quand tu plus ça va, plus tu as des invités qui viennent, plus tu as une. Je ne vais pas dire une réputation, mais juste tu crées quelque chose, tu crées un précédent. Là, les gens font comme ah ouais, c'est qui que tu as reçu? Peter Forsberg, Marcus, c'est beau, je vais y penser. C'est sûr que tu es probablement moins big que lui, puis tu vois Chantal Maccabée, puis tout le monde qui font hey, non, c'est sérieux, là, les gars sont préparés, puis ils prennent ça au sérieux, puis vas-y, puis. Les gens, je pense qu'ils viennent un peu souvent au début par gentillesse, par générosité. Je pense qu'ils ressortent en ayant eu souvent vraiment du fun, puis faire comme hey, c'était vraiment le fun, puis ça a passé rapidement, puis parce que justement, on est prêt.
T'as nommé Peter Forsberg. Cette histoire-là est débile, là. C'est incroyable. Pour nos auditeurs qui l'ont peut-être pas déjà entendu, je pense que tu as sous-écoute que tu l'avais raconté quand même bien. Là. Peux-tu nous la raconter quand même brièvement? En fait, le temps que ça te prend, là. Raconte-nous ouais. cette histoire folle-là.
Ben ouais, long story short, comme on dit, quand on a lancé la saison 2 du podcast, là, on vient de faire la 4, la saison 1, c'était comme un peu une saison, pas pilote, mais c'était un peu pour établir le podcast qui existe. Qu'on aille voir si on a un fanbase, si ça intéresse des gens, ce qu'on faisait. La saison 2, c'est comme, OK, on aimerait ça prendre un autre step. T'sais, à chaque saison, on veut prendre un step dans le podcast. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? T'sais, puis les gens nous demandent toujours, c'est qui que tu aimerais recevoir au podcast? C'est qui la personne que tu aimerais le plus recevoir? Puis c'est une bonne question parce que les meilleurs joueurs ne font pas les meilleurs invités, malheureusement. Fait que t'es comme, je sais pas. Puis c'est parti d'un truc très personnel. Puis je pense pour ça que c'est comme authentique et vrai. Mais c'est moi, mon joueur préféré quand j'étais jeune. Mon premier joueur préféré, c'était Peter Forsberg. Tu sais. C'était les bonnes années de l'Avalanche, bien avant le cap salarial. Il y avait des équipes pas possibles. Puis Peter Forsberg, c'était mon gars. Tu sais. Puis j'étais comme, ce serait malade de faire un podcast avec Peter Forsberg. Puis c'est comme, OK, on le fait. Fait qu'avec mon ami Tom, qu'on appelle Producer Tom au Adresse Tape, on est parti une campagne de socio-financement Ulule pour aller chercher, c'était quoi? C'était 5 000 $? Je pense à 5 000 piastres
ouais,
pour aller en Suède, pour aller rencontrer et faire un épisode avec Forsberg. Puis évidemment, là, ça a comme... Ça, on a lancé ça à l'épisode 1. Là, ça a fait une boule de neige. Ça n'a pas pris 2 semaines. On avait ramassé 6 000 piastres. Puis dans le mois, finalement, on a ramassé plus que 6 000 piastres. Puis là, ça, pendant toute cette année-là, on s'est... Il fallait le trouver. Parce que là, on fallait le trouver.
Ouais, non, c'est ça.
Au début, ça part comme une idée... ça a l'air comme une idée de gaucho. Mais pour vrai, c'était juste comme, OK, ben, ça serait cool. Pendant toute l'année, on a travaillé fort pour essayer d'aller trouver Peter Forsberg. Puis on a réussi à le trouver. You know, à ce printemps-là, moi et Tom, on est allé en Suède. Mais tant qu'à être là, évidemment, on voulait en faire le plus qu'on pouvait. Fait qu'on a fait 8 épisodes en 10 jours en Suède. Puis pas genre à Stockholm, genre comme...
Partout.
Ouais, c'est comme si quelqu'un vient de Suède qui en a réjoint à Montréal, mais il en a réjoint à Bécomo aussi. Ça va être. Fait qu'on avait loué un char en arrivant, puis on a fait ça. On avait fait Marcus Naslund, justement, le président de la Fédération suédoise, des joueurs qui avaient joué dans le temps. Les premiers Suédois qui étaient venus, Anders Hedberg et Ulf Nilsson, c'était les premiers à venir dans les années 70. Un ancien gars de la Ligue nationale aussi qui est rendu commentateur là-bas, un journaliste, bref.
C'est fou. Ouais,
c'est des entrevues en anglais?
Ouais, ceux-là sont en anglais. On a fait aussi un making of qu'on a enregistré. Moi, toute l'aventure, je la documentais en écrivant tout. Puis on a fait un making of qui s'appelle À la recherche de Peter, où moi puis Tom, en 4 épisodes, on décortique vraiment du moment qu'on a eu l'idée au moment qu'on est revenu et tout ce qui est avant les deux, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché. Fait que là, ça a créé ce qu'on a appelé la mission Forsberg. Puis les gens qui avaient participé au social financement, bien, il y avait évidemment la mission Forsberg. Fait que là-dedans, tu sais, il y avait les 8 épisodes, les making of, il y avait un petit feature vidéo, il y avait plein d'affaires. Fait que ça a été ça, mais tu sais, ça a été un bon coup de pub, mettons, pour le podcast, parce que même le monde qui aime pas le hockey était comme, quoi? Ouais. Avez-vous trouvé? Puis il est comment, tu sais? Fait que finalement, c'est malade, mais oui, on l'a trouvé, puis on a fait un podcast avec lui. Fait que
est-ce que c'est ton plus gros coup, tu penses, tu sais, avec le podcast?
Probablement, honnêtement.
T'es plus fier ou il y en a d'autres que t'es encore plus fier que ça?
Ah, honnêtement, je suis fier de tellement d'épisodes parce qu'il y a beaucoup d'épisodes que c'est comme quelqu'un que les gens connaissaient pas ou qui est venu au podcast, puis c'est des épisodes dont je me fais le plus parler, en me disant « Hey, cet épisode-là est vraiment cool, France Saint-Louis, même quelle légende, pourquoi on la connaissait pas, cette madame-là, Chantal Maccabé, un des épisodes dont je me fais le plus parler. » Fait qu'il y a plein d'épisodes dont je suis vraiment fier pour plein de raisons différentes. D'un point de vue coût marketing, si tu veux, c'est sûr que Peter Forsberg, c'est
ça a fait du bien.
Ça a fait de la fumée parce que c'est comme, what, c'est tellement mon gars.
Ouais.
Mais non, mais on est content pour eux. À chaque saison, on amène quelque chose de nouveau. Ça, le Patreon. Cette année, on avait plein de nouveaux événements qui, malheureusement, à cause de la pandémie, n'ont pas eu lieu. Mais à chaque année, on fait comme, hey, qu'est-ce que ça me donnerait en faire? Puis on s'arrange pour le faire. Fait que,
mais... Non, mais c'est cool. Tu sais, Forsberg, au-delà du coup marketing, ouais. Au niveau personnel, là, c'est ton idole de jeunesse.
C'est ça. Nous, on ne s'est pas dit, genre, hey, ça nous prendrait un coup marketing.
C'est un rêve.
On s'est dit, qu'est-ce qui serait le plus nice à faire? Ouais. Puis c'est comme, c'était fou d'aller là-bas, d'entrer dans un bureau à Stockholm où lui, il rentre, hey, salut, ça va? Puis comme, non, toi, ça va.
C'est ça.
Fait que non, oui, c'était
malade. Il avait capoté que vous vous étiez déplacé pour lui, tout ça.
Ouais, mais c'était un peu too much pour lui. Il était comme, c'est quoi l'affaire? Puis on a fait une vidéo en anglais. Là. Ben, en fait, on a fait une vidéo en français, mais je l'avais sous-titré en anglais pour que la vidéo, justement, voyage et possiblement nous aide. Puis comme de fait, la vidéo nous a aidé à... Et ça a vraiment fait rire des amis à Forsberg qui nous a permis de se rendre à lui. Puis, tu sais, il était comme, ouais, là, c'est parce que mes amis m'écrivaient, tu sais, faut que tu reçoives ces gars-là. Puis là, mon autre ami m'écrivait, ouais, t'as reçu les gars, tu sais. Puis là, en leur disant, j'ai bien vu que c'était sérieux, là, mais vous êtes qui, vous, Colin?
Fait que vous êtes connu dans le milieu du hockey, c'est hot.
Ouais, ouais, c'est. Ben, connu, c'est pas un bon mot, mais.
Ouais, ouais.
En tout cas, c'est comme ça.
Ça se passe l'amour, là.
Ouais, tu sais, c'était juste vraiment. Tu sais, ils ont bien vu, là, quand on était un peu les hurluberlus, là, visiblement. Puis, c'est ça, puis c'était une vidéo où je parlais du faux suédois. C'est ça, il y a un de ses amis qui s'appelle Goran Anderson qui l'a vu ça. Puis lui, ça a été vraiment notre MVP, ce gars-là, parce que c'est un gars qui a fait, non, moi, j'en fais ma mission personnelle que Forsberg accepte parce que les Canadiens, les Suédois, on est pareil, on aime l'hockey. Tu sais, genre, puis lui, quand on est allé dans son village, il était comme, ah, je veux que tu reçoives tel autre ami, il a joué pour les Devils. Puis là, l'autre ami, il était comme, ah, je sais pas si je veux le faire. Puis il est comme, non, man, tu peux pas dire non. Puis tu sais, c'est un monsieur. Qui était juste vraiment gentil, puis qui a fait comme, hey, moi, là, les petits gars canadiens, français, là, je vais les aider. Puis, fait que c'était malade, tu sais, comme aventure. Puis, Forsberg, il était tout ce que tu voulais qu'il soit. Tu sais, il était gentil.
Il répondait à tes attentes.
Ouais, tu sais, comme tu peux. On dit, tu sais, des fois, on dit, raconte pas tes idoles, tu vas être déçu. Mais non, lui.
Ouais, c'est ça.
T'es généreux, gentil, t'es de bonne humeur, lui, un café.
T'étais-tu mis d'attente?
Ben, honnêtement, non, mais probablement qu'inconsciemment, tu sais, tu peux être déçu, tu sais, s'il arrive. T'sais, pour vrai, genre, t'sais, même pas parce qu'il est méchant, mais s'il y a une mauvaise journée, je veux dire, si ce matin-là, il se réveille et ses actions ont chuté à la bourse puis qu'il s'engueule avec sa femme, c'est pas parce qu'il y a une mauvaise journée.
Ouais,
on a toutes des journées où on est comme, ah, man, tu peux pas, quoi, j'ai un podcast aujourd'hui avec des gars que je connais pas, je suis tanné. Mais cette journée-là, je sais pas, tu sais pas, tout peut arriver. Puis non, man, il est arrivé de bonne humeur avec sa petite chemise, avec un café, tu sais, comme si on se connaissait depuis. Comme si on avait gagné la coupe ensemble.
Puis ça peut-tu être encore d'un plan de refaire un voyage à quelque part pour rencontrer encore du monde pour le podcast?
Ouais, ben c'est sûr que on se fait demander aussi c'est quoi la prochaine mission Forsberg, c'est quoi la prochaine affaire. Puis c'est sûr qu'on y pense. C'est sûr que ça il va y avoir quelque chose à un moment donné. Là, qu'en ce moment, c'est qu'à chaque année, on a amené de nouvelles affaires. T'sais. L'année passée, ça a été un Patreon. T'sais. C'est tout l'aspect financement aussi d'un podcast qui est comme une discussion un petit peu plus complexe. Mais tu sais que pour faire des projets de même, ça prend de l'argent. T'sais. Dans le sens que la mission Forsberg, on l'a faite, mais on a mis notre argent personnel pour le faire. T'sais. Fait que le socio-financement, ça a aidé pour payer, mettons, les billets d'avion. Mais tu sais, pour tout, au final, moi, putain, on a payé. Fait que c'est le fun à faire, mais tu sais, si faut mettre tout le temps de l'argent, c'est pas rentable à la longue. T'sais. C'est pas viable. Fait que le Patreon, ça a commencé à faire une base de quelque chose, mais là, tranquillement, tu sens que le modèle économique des podcasts s'installe et que les commanditaires comprennent que. Mais tu sais, quand on a commencé le podcast il y a 5 ans, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 5 ans au Québec, le mot podcast.
Non, c'était rien.
Ouais, non, c'est
genre, puis même ça fait une dizaine d'années que ça existe. Mais c'est ça, tu sais. Puis à cause que Mike Ward fait un podcast, les gens pensent qu'un podcast, c'est une vidéo Facebook. Parce que tu comprends ce que je veux dire, exact, ou YouTube, fait que ça en dit long sur. La culture du podcast, mais là, tranquillement, je sens que les commanditaires, puis un peu, les gens font « OK, tu peux payer pour de la pub. »
C'est quoi
qu'on a au Patreon?
C'est quoi que t'offres comme de plus?
On offre, en fait, on offre les épisodes 2 semaines d'avance.
Okay.
Après ça, on a aussi, à chaque année, on a un party de Red Soul Tape aussi. On fait un enregistrement devant les membres où ils peuvent poser des questions. Moi, putain, on est là, il y a de la bouffe, il y a de la bière. Tout ça, là, cette année, on avait des nouveaux événements. Qui seraient rentrés en ligne de compte, qui n'ont pas eu lieu, là, relié au repêchage, tout ça, mais ça va être partie remise. Sinon, avec le spécial repêchage, tu sais, Charles Pellerin, il fait vraiment comme un document aussi de tous les prospects, de toute sa liste. Fait que c'est aussi un document qui est juste sur le Patreon. On fait des tirages à chaque mois. À chaque mois, je vais tirer, que ce soit des hoodies, du gear signé, des pucks signés, plein d'affaires que les invités ont signées. Puis, tu sais, c'est genre 2$ par mois, je pense.
Ouais, non, c'est ça. Ben, ça, c'est le de base. Après ça, tu peux augmenter ou
c'est. Ouais, c'est ça. Mais nous, on en a fait 2, en fait. On voulait pas qu'on voulait que ce soit simple. Genre 2$ par mois pour tout ce que je viens de te dire. Ou 20$ par mois. Puis 20$, c'est comme tout ça, plus 20$ dans le fond, c'est que tu peux être, on appelle ça VP, là, des opérations d'entretien, mais c'est qu'en fait, c'est de participer en fait au contenu, c'est-à-dire qu'à chaque mois, on peut se parler, puis par Zoom ou peu importe, puis les gens peuvent nous dire, OK, hey, donnez-nous du feedback sur le podcast, qui aimerait voir au podcast, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. C'est vraiment comme avoir un lien direct avec les auditeurs pour en jaser, puis participer, puis bon, évidemment, plus, évidemment, tu as plus de gear aussi, évidemment, là, mais bref, fait que non, c'est ça. Mais oui, mais tout pour dire, oui, on va faire un prochain projet éventuellement. On y pense, puis on marine là-dessus, mais il faut vraiment que ce soit le bon projet, puis qu'on trouve la bonne manière de le financer, puis on va le faire, mais il va y avoir une suite à ça, c'est sûr.
Tu as parlé de la liste de repêchage de Charles. Est-ce que c'est toujours un. Tu sais, j'écoute pas tous les épisodes, c'est selon les noms, mais l'épisode du repêchage, c'est un classique que je peux pas manquer. Là. Est-ce que tu aimes mieux tourner cet épisode-là du repêchage ou l'épisode spécial World Junior Championship? Quels les deux que tu préfères?
Colin.
Bonne question. Hein?
Les deux ont une bonne une dose d'excitation bien à eux. Là, le World Junior, c'est comme vraiment un timing précis là, à chaque année en décembre, puis c'est excitant avec. C'est Charles et Stéphane Leroux. Mais je pense que l'épisode du repêchage vient frapper une corde encore plus.
Avec Snake.
Avec Snake Boisvert, qui est également cinéaste, si vous avez la chance de voir. Il a fait des films.
Ah ouais?
Bref, ouais. Non, juste comme des fictions que tu as autofinancées.
Ah ouais, OK.
Bref,
ah
ouais. toute une vie, ce gars-là. Et non, celui-là, je pense qu'il m'intéresse encore plus parce qu'il y a quelque chose qui dure dans le temps avec cet épisode-là. Puis Charles, il se prépare. Là, on parle d'un épisode qui s'étend sur un an, deux ans, parce qu'il regarde les joueurs jouer. Après ça, il regarde jouer leur année de draft. Fait qu'il travaille toute l'année là, pour cet épisode-là. Il regarde des gars en Suède avec son pad. Puis il est comme... Hein, hein. Tu sais, genre, pendant toute l'année, il check ça. Puis vraiment... Puis Charles prend ça... Comme on le voit dans l'épisode, super au sérieux, puis tu sais vraiment, ok, non, je veux vraiment que ma liste soit. Fait que c'est malade, puis ce que j'aime du draft, c'est que c'est comme l'ultime méta. Tu sais, comme. C'est qu'une science qui est tellement tough, le draft, tu peux pas savoir exactement.
Ouais, les prédictions,
ouais. Ouais, tu sais, tu peux. Tu sais, le monde, des fois, comme ah, lui, mais tu sais, là, c'est, on a vraiment deux gars qui ont regardé jouer le plus possible, évidemment, sans être des vrais scouts, mais qui ont vraiment vu jouer, qui ont des opinions, puis qui nous en apprennent aussi sur ces gars-là. Puis il y en a là-dedans qui vont devenir des superstars. Puis il y en a là-dedans que tu ne reverras jamais. Tu sais.
C'est un flop.
Pourquoi? Puis je pense que les épisodes vont prendre, ils prennent aussi une autre dimension avec le temps. Tu sais, là,
Mais j'ai écouté justement, il y a comme deux, trois semaines, j'ai écouté un d'il y a deux ans. Puis c'est le fun de voir ça. Puis tu sais, j'aime ça écouter ceux de tout le monde, d'aller voir les vieux textes sur Internet. C'est le fun de voir ceux qui ont mis le doigt ces bonnes affaires.
Si ça fait juste deux ans, là, des fois, quand ça fait deux ans, t'es comme, ah, oh, il avait raison, il avait tort, puis là, c'est trois ans après, tu fais, alors finalement, il avait peut-être, tu sais, fait que 300, 5 ans, 10 ans après, tu fais comme, ok, ouais, finalement, on avait vraiment vu ça ou on s'était vraiment trompé là-dessus. Puis, tu sais, le draft, c'est comme quelque chose de vraiment spécial, là, de faire comme, tellement important, tu sais. Puis là, en plus, weird, là, mais cette année, c'était supposé être à Montréal, tu sais, avec Lafrenière, puis là, la pandémie, c'est comme, c'est super hollywoodien, là, toute cette affaire. On avait 14 choix, les Canadiens. T'sais. Fait que non, c'est ça, l'épisode du repêchage, là, je me fais beaucoup écrire. Là, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui justement, qui n'écoutent pas tous les épisodes, mais celui-là, il y en a qui l'écoutent, qui me réécrivent. Je l'ai écouté deux fois parce qu'il y a tellement de détails. Là, c'est des épisodes fluff là, qu'on fait, c'est 2-3 heures.
Ouais.
Puis il y en a qui l'écoutent avant le draft, check le draft. Là, ils ont la liste de qui va où. Réécoute le podcast, genre, OK, fait que si le but va là. Tu sais, fait que je pense que c'est vraiment cool. Ça a comme créé un following. Puis il y a plein de gens qui ne connaissaient pas Charles, qui le connaissent maintenant. C'est comme, OK, humoriste, ou qui connaissaient Charles. C'est comme, OK, t'es un malade mental plus que je pensais. Fait que non, le draft, c'est vraiment le fun à fond.
Deux questions pour poursuivre là-dessus. Premièrement, est-ce qu'il va y en avoir un cette année?
Un épisode du draft?
Oui.
Absolument. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui écrivent à Charles, qui sont comme, qu'est-ce qui se passe? Puis la réponse est très simple. On attend d'avoir une date pour le draft.
Ouais, non, c'est ça l'affaire. Hein?
On attend d'avoir une date, puis il n'y a pas de date. Puis tu vois, là, avec ce qui est arrivé, encore une fois, Hollywood qui frappe, mais avec le premier show total qui appartient à une équipe qui n'est
qu'on
pas encore
pas.
Déterminée, si on avait enregistré avant ça, ben ça aurait pris un autre sens. On aurait été comme, tu sais, alors que là, il va y avoir, s'il y a des playoffs, il va avoir le draft après pour la loterie pour le premier. S'il n'y a pas de playoff, il va avoir une autre loterie pour le premier quand même. Fait que tout ça, il faut qu'on attende d'avoir les équipes aussi parce que ça, dans le contexte, c'est ça qui va donner du sens aussi un peu à OK, ben là, on peut anticiper telle ou telle affaire. Là, il manque encore trop d'informations. Puis je pense que ça paraîtrait quand tu l'écouterais. Tu serais comme, mais là, pourquoi il dit ça? On sait que. Ouais. Fait qu'on attend un peu. Mais oui, il va y avoir un épisode. Charles a travaillé toute l'année. Il est prêt. Il a encore sa liste. Là, évidemment, il y a plein de choses qui ont changé. Il n'y a pas de moins de 18 cet été. Il y a plein de tournois qu'on n'a pas. Mais c'est pas grave. Je vous confirme que l'épisode va avoir lieu. Puis plus ça va aussi, plus le déconfinement avance. Fait que, je pense que ça va être. Il y a une époque là, de dire qu'on venait faire un épisode avec Snake. Ça aurait été quand même pensable d'être dans la même pièce. Là, c'est possible de penser que trois personnes sont à 2 mètres dans la même pièce.
Que... Justement, Snake, c'est ça ma deuxième question. Ça s'est fait comment votre association ensemble? Là, comment vous êtes connus? Comment que ça a fait qu'il a rejoint ton podcast?
Donc, tu me dis ça, j'essaie de me rappeler. Ça fait déjà deux ans qu'on fait le spécial draft avec lui,
je pense que oui.
C'est la troisième année. Je pense que lui, ça a commencé que je voulais l'avoir comme invité. La première année, c'était-tu avec Charles? Tu sais, je parle de la notion des choses, mais je pense que oui. Je pense que oui, c'est vrai. Oui. C'est ça, je pense que ça a commencé que je voulais l'avoir comme invité parce que ce gars-là, il a une vie. C'est un gars qui s'est fait connaître sur un blog avec le surnom Snake70. Mais dans le fond, c'est un bonhomme dans la quarantaine, cinquantaine, qui s'appelle Simon Beauvert, qui est traducteur, puis qui finalement il s'est fait engager par une équipe du junior majeur.
Cinéaste.
T'sais, ouais, c'est ça, il se peut pas ce gars-là.
Ouais, il est incroyable.
Puis tu sais, il a comme un delivery, puis il est comme genre de petit monsieur. Puis, fait là, j'ai fait, j'ai commencé à avoir un podcast. Puis je pense que la première fois qu'on a fait l'épisode, ça a été un double épisode. Je pense que ça a été comme l'épisode Snake, où on parlait de lui, sa vie, tout ça. Puis après, genre une heure et demie, on a fait, bon, commençons l'épisode de repêchage. Puis on a fait comme, finalement, on a fait 3h30 d'épisode, je sais pas trop quoi. Fait que là, on avait fait, ça, c'était la première fois, je pense. Puis là, après ça, on a fait, ouais, mais là, il faut qu'il revienne à chaque année. Puis lui et Charles, évidemment, ne seront pas évidemment d'accord sur certaines affaires. Puis Snake, il aime ça être champ gauche. Il aime ça mettre un gars que tout le monde voit 26e, 3e. Tu sais, t'es comme, Puis il est comme, ouais, check ça. Puis là, Charles est comme, t'es complètement barjot. Fait que là, évidemment, Charles aussi, il y a ses gars qui aiment. Puis fait que l'équilibre entre les deux est bon, tu sais.
Ah,
ils pensent pas à la même affaire ou ils sont pas complètement, tu sais... Fait que là, je pense, l'année passée, on est retourné vraiment juste le draft. Puis là, c'est là que c'est devenu vraiment, je pense, la formule. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Je pense que c'était juste comme, je voulais l'avoir. Puis après ça, on en a profité pour comme jumeler sa spécialité, si on veut.
Ah, il amène de quoi, lui. Il faut que ce monsieur-là ait une plateforme. Il faut qu'il ait une tribune, là.
Ouais, puis en plus, il était sur Twitter. Il avait un full gros following. Puis là, cette année,
il a quitté Twitter.
Ouais, tout le monde est comme, pourquoi?
il était tanné.
Consacré au film.
Ouais, c'est ça. Il voulait se concentrer sur sa carrière.
Un gros projet, ouais.
Cinématographique.
Et c'est tout un personnage, Justin.
Ah ouais, oh, je l'aime. Mais c'est ça ce qui est spécial avec lui, tu l'as dit, c'est ses prédictions champ gauche, là, que tu peux pas l'ostiner, là. Il sait que ça va être ça, là. C'est le gars qui est censé sortir 26e, il va être le troisième meilleur joueur.
Mais mettons, sur deux ans, y a-t-il déjà eu raison? C'est-tu arrivé que...
Oui, puis non. Là, évidemment, quand on fait des podcasts aussi, on revient sur l'année d'avant, puis on revient sur le passé, puis on a ri dans tous les cas des gars qui aimaient trop. C'est Charles, puis lui, il adorait un gars qui s'appelait James Shepard. Je ne connaissais sûrement pas, mais c'est ça. Puis, tu sais, mettons, il capotait sur Jeff Skinner, Snake. Puis Skinner, quand il est arrivé dans la ligue, il était vraiment hot.
Ouais.
Puis là, il est comme aujourd'hui, il est bon, mais il n'est pas non plus si bon que ça. T'sais.
Un peu fait trop payé.
Beaucoup trop payé. Puis, mais il y a quelques gars sur le. Là, je ne m'en souviens plus comme ça, mais des joueurs sur lesquels il tripait. C'est comme l'année passée, c'est qui? Là, tu vois, là, c'est encore trop tôt parce que c'était juste l'an passé. Mais
ben, Snake, gars... c'était pas Newhook, c'était.
C'était pas Peyton Krebs.
C'était Krebs, voilà. C'était Krebs qui mettait 4e, je pense.
Il capote sur Peyton Krebs. Mais là, ça fait juste un an, mais comme. Taboire, même, j'espère que pour Peyton Krebs qui va livrer la marchandise, parce que c'est beaucoup trop de. Mais bref, à voir avec le temps. Mais ouais, il part sur des chiens, sur des gars, et ça, pour notre plus grand plaisir.
Ça, c'est certain. J'espère qu'il va être là cette année.
Ouais, on veut vraiment le faire avec les boys de cette année. Ouais.
Zach,
mais c'est ça, Max. Ça, il me fait penser un peu à toi dans la façon, que, dans la façon que vous le décrivez. Là, t'es vraiment champ gauche.
Exact.
Quoi, je suis pas
la même chose.
Je suis pas champ gauche.
Mais oui. Non, t'es anti-canadien. Non, c'est pas.
Dans quel sens je suis champ gauche?
Ben, t'es chaud au repêchage. Il y en a qui sont classés, genre, je sais pas, 15e. T'es genre, ben moi, je le vois dans le top 5. Puis...
Je pense pas avoir fait ça.
Mais oui.
Ça, c'est des vraies affaires, là.
On veut des noms!
Ouais,
des noms,
c'est ça. Ouais. Dis-moi un nom, puis ça va me faire plaisir d'argumenter, mais là, si tu me dis ça comme ça.
Lindell, c'est ça?
Sandstorm.
Lundell, ben moi, je le mets 14e, je pense, puis il est classé top 10. Ben en fait, ça dépend du monde, là.
Mais il me semble qu'il y a des choix. Là. Il y a des joueurs là, que tu dis que tu classerais plus tôt. Puis...
Seth Jarvis.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais là.
Seth Jarvis, il pourrait sortir top 10.
Là. Ouais, ouais, ben oui. Ben oui, certain.
Surtout cette année, il n'y a pas comme.
Le groupe est...
Kirby Dack est sorti troisième, puis personne ne le voyait si tôt, mais tu sais, c'est très malléable. Là,
après c'est la beauté.
Après le top 3, il y a des équipes qui voient quelque chose. L'année où Sergachev est tombé à Montréal à 8 ou 9, je pense Edmonton allait le prendre à 4, puis finalement, pour l'URV, il était disponible, fait qu'ils ont pris pour l'URV. Puis cinq équipes ne l'ont pas pris, Sergachev. C'est comme si le draft, c'est comme. Si t'es deuxième sur la liste à beaucoup de monde, ça veut dire que tu seras jamais pris. Tu comprends ce que je veux dire?
Comme Caulfield.
C'est la beauté. Ouais, comme Caulfield. On a beaucoup parlé de hockey. On vient-tu en humour un petit peu?
On a perdu tout le monde. C'est pour les gens qui écoutent encore.
Ben non, tous nos fans sont fans de hockey.
Cool. Oui, absolument. je suis tout ouïe, vas-y.
Parlons d'humour, c'est pour ça à la base que tu es invité. Diplômé de l'École nationale de l'humour en 2013, c'est déjà 7 ans. Dans ma tête, 2013, ça fait comme 4 ans maintenant, 7 ans.
Ouais, ça
passe vite. Mais c'est ça, depuis ce temps-là, t'as été auteur, script éditeur pour 4 Levac, finaliste en 2016 en route vers mon premier gala Je pourrais, 2017, premier spectacle solo. Est-ce que t'es content, quand tu remets toutes tes choses en perspective, est-ce que t'es content de ce que t'as accompli dans les 7 dernières années?
Ouais,
vraiment, pour vrai, comme tu dis, je n'en reviens pas que ça fait 7 ans. Là. C'est sûr que tu te dis « fuck, 7 ans même ».
C'est un 7 ans bien, c'est genre bien garni quand même, tu as quand même beaucoup de choses.
Ouais, non, je suis vraiment content, mais c'est sûr que tu ne dis pas ça, tu sais, dans le sens que je n'avais pas le matin, tu sais, je pense dans la tête, on est toujours en train de penser à la prochaine
affaire. Ouais, tu ne dis pas ton CV.
Qu'est-ce qu'on veut faire, tu sais, c'est plus, je pense que tu as toujours l'impression de jamais « ah non, voir que j'ai pas encore fait ça ». Je pense que c'est normal de penser vers le truc, mais c'est sûr que quand tu t'arrêtes des fois, puis… C'est quoi, l'autre jour, on regardait toutes les... Parce qu'on a fait des shows là, aux Oufesses à chaque année, des shows concepts qu'on écrivait, tu sais. Une nouvelle heure de show. Ah ouais, let's go. Tu sais, des affaires, on a fait des affaires. J'ai oublié, mais t'oublier avec le temps. Puis c'est juste le fait que le podcast rentre dans sa 5e saison. Il me semble que c'est comme la 2e saison. Je sens que j'ai commencé le 2. Tu sais, je sais pas, tu sais, c'est...
Ouais, ça passe vite.
Non, c'est ça. C'est sûr que... Non, pour vrai, je suis vraiment content avec l'évolution. Surtout que... Je pense que c'est quand tu sors de l'école de l'humour, des mouches, quand tu sors de l'école de l'humour, tu évidemment, tu n'es pas encore bon, tu sais. Je pense que c'est ça qui est, je pense que c'est ça l'affaire avec probablement n'importe quoi, là, peu importe le domaine, mais c'est pas parce que tu sors de l'université, tu sais, la première fois que tu sors de l'université, c'est que tu sais rien, tu sais.
Ah, mais toi, ça t'a servi un peu, l'école, parce qu'on en parlait avec d'autres humoristes qu'on a reçus, puis il y en a pour qui ça n'a pas vraiment aidé, puis il y en a pour d'autres
qui
a vraiment...
Non, moi, je suis l'école de l'humour, on a souvent cette discussion-là entre amis avec certaines personnes qui eux, ont peut-être vraiment
pas fait l'école,
détesté leur passage, d'autres qui ne l'ont pas fait, d'autres qui l'ont fait. Mais moi, je pense que c'était pas l'école de l'humour, je ferais probablement pas d'humour en ce moment. Tu sais, c'est quelque chose qui permet de légitimiser un peu, de prendre cette voie-là, puis d'arriver... avec aucune confiance, de tester des jokes devant tes amis, mais est-ce que tu travailles dans un bar, tu sais?
Mais aimais-tu le stand-up avant de faire l'école nationale ou c'est même l'école qui t'a fait tomber en amour avec ça?
Non, j'étais vraiment un gros fan d'humour depuis que j'étais jeune. Puis tu dis stand-up, là, mais même, je te dirais, l'humour at large. Tu sais, j'aimais le stand-up, okay, mais j'aimais beaucoup l'humour de sketch, les tunes, tout ça. Fait que non, c'est ça. Non, moi, l'école, ça m'a vraiment... Tu sais, puis je trouve aussi il y a beaucoup de modestes des fois qui chialent contre l'école, puis des fois, qui l'ont fait, je veux dire. Puis des fois, j'ai l'impression que tu reconnais pas aussi tout. Je pense qu'il y en a qui ont oublié ce que ça leur a apporté.
Ouais.
Je pense que tu t'en rends pas compte. Comme, en passant, tout ton réseau de gens avec qui tu travailles, tu les rencontres à l'école. Tu
réalises, ouais, les contacts, comme... c'est important, ouais.
Ah ouais, ok, j'avoue, ouais. T'sais, ou tu sais, ils ont certains des souvenirs plus amers de certaines affaires, mais je pense que faut pas que tu oublies globalement.
Fait que toi, tu la referais, l'école.
Ouais, ouais, à l'époque où je l'ai faite, c'était, tu sais, à ce moment-là dans ma vie, j'étais à l'université. Si j'avais pas fait l'école de l'humour, non, je suis pas mal sûr que je ferais pas d'humour, en tout cas en ce moment, ou pas de cette manière-là. Puis, non, c'est vraiment, je trouve, moi, ça a été vraiment bénéfique pour moi. Puis, je suis vraiment. Puis, cela dit, il y a plein de monde qui n'ont pas fait l'école de l'humour. Puis, je sens des fois qu'ils sont comme complexés. Ah, j'ai pas fait l'école. Puis, je suis comme arrête d'être complexé. On s'en fout, au final, là, tu sais, c'est pas important. Là. Des fois, je sens que c'est comme un... Je sais pas s'ils auraient voulu la faire ou
comme
pas.
Comme un prérequis,
ouais. Ouais, je sais pas trop, mais des fois, je sais pas pourquoi ils ont cette complexe-là. T'sais, si t'es bon, puis
ouais, c'est comme les comédiens, il y en a qui font l'école nationale.
Ouais, l'école NAT ou tout ça, mais c'est bref. Fait que... Non, fait que ça, pour dire, moi, je suis sorti de l'école en 2013, puis ça prend un certain temps. T'sais, aussi, comme faut que t'en fasses beaucoup pour que ton style se développe puis se précise, tu sais. Fait que quand tu sors, t'es comme, tu fais des affaires, mais c'est pas tout. T'as comme l'essence de ta personne, mais t'es pas exactement sur ton X. Tu sais, puis je pense que c'est là que le vrai travail commence aussi, tu sais, parce que t'entames ça à l'école de l'humour, mais là, c'est vraiment ta job à temps plein. Si tu décides de faire ça en sortant d'école, il y en a beaucoup d'gens qu'on voit jamais, mais de faire ça, fait que je pense que je suis content parce que je pense que j'ai évolué à travers les années, puis mon style aujourd'hui, je le sais vraiment c'est quoi, tu sais, puis il est plus clair, ouais. Autant dans le fond que dans la forme, tu sais, je sais c'est quoi une joke que je fais comme, oui, ça c'est ça va sonner, oui, mais ah oui, ça c'est du David Bocage, dans le sens que ça c'est moi qui fais ça, t'sais.
Tu penses que ça t'a pris combien de temps pour justement trouver ton style d'humour?
Pour vrai, ça prend des années, puis je te dirais que c'est pas un processus, je pense, qui est jamais, en guillemets, fini, dans le sens que oui, à un moment donné, oui, là, tu trouves vraiment ton identité, puis je pense que je suis là-dedans, mais tu vois, j'ai même pas encore sorti mon premier one-man show officiel, dans le sens que là, je suis là-dedans en ce moment, mais pour moi, ça a pris des années, mais tu sais, je veux dire, il y en avait Catherine Levac à l'école de l'humour, elle savait qu'est-ce qu'elle faisait déjà. Tu sais, il y en a d'autres, ça a pris plus de temps, où ils savaient, mais il fallait qu'ils le polissent un petit peu plus. Mais tu vois, là, aujourd'hui, je sais plus vraiment c'est quoi mon style, autant dans le fond, c'est-à-dire de quoi je veux parler, puis la forme de comment je vais en parler sur scène. T'sais, j'ai compris qu'à un moment donné, genre, j'aime ça le stand-up, mais je ne suis pas un stand-up pur.
Ouais,
j'ai
tu fais musique, plein d'autres choses.
J'ai la musique, j'aime ça des concepts, un côté un peu plus théâtral. Il y a toutes ces affaires-là qu'à un moment donné, tu fais « Ah, mais si c'est ça que je veux faire, que je le fasse. » C'est correct là, de pas juste faire comme
un stand-up.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse.
Puis est-ce que tu vas toujours faire ça ou c'est vraiment juste pour remplir tes salles que tu vas faire des vidéos, que tu vas être sur les réseaux sociaux?
Honnêtement, je ne faisais même pas dans le sens que je pensais même pas à ça de cette manière-là. T'sais. Je ne pensais pas en disant « Ah, il faudrait que je fasse des vidéos pour remplir mes salles. » Ça serait comme...
ouais.
Je faisais des vidéos parce que... ou je faisais des vidéoclips et un album parce que ça me tentait de faire ça et j'avais toujours voulu faire ça. Je pense que peu importe la forme, que ce soit sur scène ou des vidéos, le but, c'est juste de faire des trucs que moi, je trouve qui sont bons et qui sont moi-même. Après ça, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu... Si tu veux te faire connaître le web, c'est évidemment... C'était Arnaud Soli en est le meilleur exemple. J'y avais pas pensé de cette manière-là. C'était plus de trouver qu'est-ce qui est moi, qui est bon, puis de le faire. Puis le reste, comme ça, les gens, s'ils aiment ça, ben, ils peuvent venir te voir en show. Puis sinon, c'est correct aussi. T'sais.
On parle. Je vais poser ma question parce qu'on parlait de ça, puis je veux pas qu'on s'éloigne trop. On parlait de trouver sa personnalité. J'ai dit que tu avais été auteur. Dans ce. En faisant ça, en étant auteur, comment tu fais pour justement pas te perdre, justement? Parce que c'est complètement différent. Là, à ce moment-là, tu n'écris pas pour toi, tu écris pour quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce qu'il faut que tu te mettes à la place de cette personne-là, de justement essayer de te reconnaître dans son humour? Ou comment, c'est quoi le processus créatif derrière être auteur pour quelqu'un d'autre que soi-même?
Ouais, c'est une très bonne question, honnêtement. Moi aussi, la particularité avec cette affaire-là, c'est que j'ai été auteur, mais pour des personnes très précises et proches de moi. Alors que si tu es auteur de profession, et que tu fais autour de l'école de l'humour, tu veux vraiment écrire pour des gens. Là, ça demande vraiment ça devient ton métier. Fait que vraiment, il faut que toi, tu t'adaptes toujours à la couleur de quelqu'un. T'sais, si tu veux être François Havard, là, genre, faut que tu saches que si tu écris pour Louis-José, tu écris ça. Si tu écris pour Matt, tu écris ça. Moi, c'était vraiment quand j'ai écrit pour Catherine Levac. Fait que nous, on se connaissait vraiment bien. Puis je connaissais son style. T'sais, j'ai pas été comme. T'sais, ça paraissait moins comme un contrat, t'sais, que je pense qu'on rit un peu aux mêmes affaires. Puis en plus de ça, c'est que ça me fait penser, là, c'est pour ça, c'est qu'en écrivant une joke, des fois, je vais dire ah, check cette joke-là, tu pourrais dire cette joke-là. Puis elle va faire ah, mais ça, je peux pas dire ça, c'est toi, ça.
OK.
Ça, tout David Bocage, je dirais ça, mais moi, je dirais pas ça. Là, ça, finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça t'aide à comprendre aussi ton style.
Okay.
C'est comme, ah oui, c'est vrai, ça c'est. Ah oui, la manière que tu joues, ça. Moi, je fais pas ça, là. Moi, je dis liner de même. Ah oui, ça c'est ton style, moi mon style, donc c'est plus jouer. Tu comprends ce que je veux dire?
Donc ça t'a aidé.
Oui, dans ce sens-là, ça m'a aidé, mais aussi, c'est que j'en ai pas fait un métier. Tu sais, souvent, moi, les gens sont comme, oui, toi, t'es au... quand je suis sorti de l'école, beaucoup, là, les gens.
T'es un writer. Ils savent
que je suis humoriste, mais ils sont comme, ah, fait que t'es writer. Tu sais, comme, on dirait que les gens t'associent à ce que tu fais, t'es comme,
non.
Ben, writer, ouais, pour moi, en fait, là. Tu sais, dans le sens que j'ai écrit les choses que j'ai joué. Mais tu sais, moi, c'était vraiment comme, j'écrivais pour quatre parce qu'on, tu sais, on est sorti de l'école, tout de suite, elle a commencé à. Elle a pogné SNL, elle a pogné Papa Ragile. Fait que moi, ça m'a permis aussi de travailler. Puis, quand tu sors aussi de l'école de l'humour, faut que tu travailles, faut que tu fasses de quoi, tu sais. Puis, t'as pas écrit tant de jokes que ça dans ta vie, là, si tu penses que t'en as écrit. Fait que, d'écrire des jokes de même, c'est comme, OK, ben, faut que, cette semaine, faut écrire une chronique, puis surtout sur des films, d'avoir une pile de DVD, puis être comme, OK, je vais écrire des jokes sur chacun de ces films-là. Puis là, t'en écris une chier, puis là, apprends, c'est les meilleures, celles qu'elle a. Mais ça, c'est comme aller au gym, là, pour un humoriste, tu comprends?
Que
c'est important que tu le fasses, parce que sinon, t'as beau penser que t'es fort, t'es pas si fort que ça, t'en as pas tant fait, tu sais. Fait que ça, ça m'a permis de faire ça, fait que de développer le muscle, puis de développer aussi une confiance de genre, donne-moi un sujet, je vais écrire des... là, je vais trouver un angle, je vais trouver des jokes là-dessus.
Okay.
Ça, ça prend ça, tu sais. Sinon, t'es comme, si t'on dit, ah ben là, je suis pas capable d'écrire des jokes là-dessus, là. Ben là, d'abord, t'es peut-être pas, tu sais ce que je veux dire.
Ouais,
n'importe quel humoriste qui a une identité comique forte, de dire un sujet, puis il va le passer à travers son filtre. Puis il va le ressortir, tu sais. C'est pour ça que si tu donnes le sujet, donc je dis les enfants à Bellefeuille, à Catherine Levac, à Joséra, les trois vont faire comme, OK, je vais trouver de quoi. Puis ils vont trouver de quoi, puis ils vont en parler, puis ils vont faire trois affaires complètement différentes, tu sais. Mais ça, comme auteur, c'est ça que ça permet de faire. Puis ça te permet aussi de développer. Moi, tu sais, pour moi, l'écriture, c'est comme l'affaire pratiquement la plus importante, là. Tu sais, parce que quand t'es jeune, tu vois les humoristes qui font des affaires drôles, t'es comme, ah, être drôle. Mais quand tu rentres vraiment dans le craftsmanship de l'humour, t'es comme, tu sais, Louis-José, il se décrit comme un writer avec du charisme, là, dans le sens qu'il est comme, ouais. Il écrit, puis après ça, il va le dire, ses jokes. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, OK, c'est quoi, tu sais, de penser à les meilleurs sujets, les meilleurs angles, les meilleurs jokes. Tu sais, c'est vraiment comme l'art d'écrire des jokes. Fait que c'est ça. Fait que moi, au début, j'ai fait ça quatre. J'ai fait un peu aussi pour Jay l'année passée, parce qu'encore une fois, Jay, on a toute notre gang de cas de mots, 4 Jay, tu sais. Fait que Jay, il était à l'aise avec moi, puis je pouvais dire, encore là, tu sais, des jokes que moi je dis, des jokes que je dirais pas, mais là, on est tellement à l'aise que je peux écrire des affaires qui vont faire OK, je vais le dire.
Fait que pour être writer, faut-tu indirectement être proche de la personne, tu sais, être ami?
Mais c'est ça, moi, si tu es un writer de profession, non, tu sais, je pense que c'est ça ton talent, c'est de comprendre la couleur de quelqu'un puis d'écrire des jokes à la manière d'eux. Moi, c'est ça, j'ai donné que j'ai écrit pour quelques gens, mais qui étaient proches de moi parce que je les connaissais, mais j'en ferais pas un métier. C'est pour ça que c'est comme, moi, à la base, ma job, c'est d'écrire des jokes pour moi, tu sais, à ma manière. Ouais. C'est pour ça que je suis comme, c'est pour ça que je trouvais que c'était une bonne question, c'est que c'était intéressant ce que j'ai appris à travers ça, mais moi, je suis pas un writer, writer, tu sais, je pense qu'il y en a des Antoine Desjardins, il y en a plein des gars qui écrivent pour les grandes crues, qui écrivent pour la radio. Ça, c'est un writer. Tu sais, ça, c'est un gars que dans la vie, c'est un writer, il s'appelle Simon Cohen, tu sais, c'est un autre gars qui écrit... Il y a un autre gars aussi qui écrit avec et Simon Leblanc et François Bellefeuille.
Ce sont deux humours complètement différents.
Un blanc de mémoire, mais...
Puis un writer, c'est juste du brainstorm ou c'est vraiment juste amène des blagues? Ben, je sais qu'il y a le brainstorm qui est super important dans l'humour. Puis,
ça peut être les deux. Tu sais, ça dépend toujours de l'artiste avec qui tu travailles, qu'est-ce qu'il a besoin. Tu sais, on avait un prof à l'école d'humour qui disait « mon royaume pour une prémisse », dans le sens que le gag, c'est le dernier. Pour certains, le gag, c'est le dernier de leurs soucis. Ils vont le trouver, le gag. C'est pas ça le problème. Ils sont comme, j'ai besoin d'une prémisse, de quoi je parle, comment j'approche le sujet, tu sais. Fait qu'il y en a qui ont plus besoin de prémisse, puis ils ont plus de facilité que les gags. Il y en a qui ont bien des sujets, mais ils ont pas de gag. Fait qu'ils aimeraient ça, avoir la finishing touch là-dessus. Ça dépend honnêtement de vraiment de mille affaires. C'est quoi le contrat? Tu sais, si t'écris pour une chronique radio, ou t'écris pour un one-man show, ou t'écris pour une présentation de gala, c'est trois affaires complètement différentes, tu sais, qui vont demander des trucs différents, que l'artiste va vouloir faire ça. Bref, c'est ce que je veux dire. Okay, mes réponses sont vraiment longues, je sais pas si
c'est... Ah ben non, mais c'est parfait. C'est la beauté du podcast.
Ouais.
Voilà. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je m'excuse, il y avait comme 8000 parenthèses dans ma réponse. J'espère que c'était clair.
C'est très clair.
La question aussi avait des volets. Hein.
Mais à la base, ta relation avec Catherine Levac, ça part-tu de l'École nationale de l'humour ou vous connaissiez avant?
Non, on s'est rencontrés à l'École de l'humour. En fait, on s'est rencontrés à l'audition. La deuxième audition de l'École de l'humour, c'est genre en avril 2011, où ils font revenir ceux qui ont...
OK, il y en a plusieurs. Okay. Moi, je pensais qu'il y en avait juste une, puis ils choisissaient.
Non, ils en ont deux. Ils prennent... ils coupent genre 80% du monde. Ils gardent 30 personnes, puis ils mettent ça sur 2 jours, genre 2 fois 15.
OK.
Puis après, ils en recoupent la moitié. Puis là, ils en gardent 12, 15. Puis moi, j'étais sur la même journée que Jay Dutombe, Catherine Levac.
Fait que tous ces gens-là, tu les as connus à l'école.
Oui, c'est ça, exactement. On était tous dans la même cohorte. Sam Breton aussi, François Douzignan, Jess Shea. Donc, tous ces gens-là, on était dans la même cohorte. Puis Mehdi Boussaïdan également. Donc.
Il n'y a pas Kevin Montreuil aussi sur
ouais, cette. Kevin Montreuil aussi, okay. Exactement. Il y en a beaucoup, là, je vais en oublier, Espaillé, tout ça. Il y en a qui n'en font plus aussi. Là, tu sais. Mais, fait que c'est ça. Fait que moi, dans ma deuxième journée d'audition, il y avait Jay Picat. C'est la première fois qu'on s'est vus. Après ça, on les trois, on était acceptés, ce qu'on ne savait pas à ce moment-là. Puis après ça, avec Colin Moore, c'est là qu'on est vraiment devenus tous amis. Puis moi, j'ai sorti avec Kat aussi 4 ans, 5 ans, quand t'as Colin Moore, puis un peu après. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est vraiment là qu'on s'est connus, les quatre amis ghosts. Là. Jay, Kat, Sam puis moi, là, on était comme les inséparables. On avait la van de tournée, il y avait trois vannes de tournée, on était dans notre van tout seul. On était encore vraiment amis. Donc, ouais.
Puis est-ce qu'il y a un esprit de compétition à l'École nationale de l'humour ou c'est plus de fratrie?
Surtout en tournée, hein, je pense. Ou même quand vous présentez vos gags ou.
Ouais, moi j'ai pas un... Peut-être que c'est moi le problème, mais j'ai pas un souvenir de compétition particulièrement. Je pense que c'est pas. Je pense que c'est plus de. Tu sais, c'est sûr qu'il y a comme un. Je sais pas si le mot compétition, c'est le bon mot, mais tu sais, c'est sûr que tu veux.
Tu veux être le meilleur.
Ben, tu veux surtout bien faire. Tu sais, je pense que tu veux pas arriver.
Tu veux t'appliquer, là. C'est ton
argent. Tu veux pas arriver vendredi puis être le numéro lourd, là. Tu sais, comme caler sa poche. Je pense que c'est comme. Je pense que c'est surtout ça. Tu sais, après ça, est-ce que c'est une course? Non, tu sais, c'est pas une. Tu sais, c'est une course. C'est comme. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on est tous ensemble, mais c'est un sport individuel. Tu comprends ce que je veux dire?
Mm-hmm.
Fait que c'est comme un peu genre, oui, tu sais, je pense que c'est. La compétition peut être saine de comme, oh shit, OK, les monde sont vraiment bons, faut que je step up, faut que j'arrive vendredi avec un numéro solide puis que je sois de calibre. En même temps, si telle personne est rendue à tel point dans son processus artistique, puis parce que c'est ça qui arrive avec l'École de l'humour, tout le monde arrive à des stades différents. T'sais, on arrive à l'École de l'humour, Sam Breton gagne déjà sa vie avec l'humour. Ouais. Catherine puis moi, puis on n'a jamais fait de numéro d'humour devant le public de notre vie. Okay. On part pas au même endroit, là. Jay a fait deux, trois, une couple de choix en bar, puis secondaire en spectacle, puis cégep en spectacle, tu sais. Donc là, on arrive à tous des endroits différents, avec des niveaux de confiance différents, des niveaux d'identité artistique complétés différemment, parce que Sam, ça fait longtemps qu'il en fait, mais Kat, elle a fait l'écriture à l'université, puis de l'impro, fait qu'elle a un personnage de scène, puis elle a une identité d'écriture. Elle a mis ça ensemble, hop, là, elle est rendue là. Fait qu'on est tous à des stades super différents, tu sais. Fait que je pense que c'est le fun de s'entourer de ça, mais je pense que c'est il y a une compétition, mais c'était pas. Moi, je me souviens pas d'une. En tout cas, je sais pas si j'oublie puis je suis vraiment naïf, mais je me souviens pas d'une ambiance malsaine. Je pense que c'était vraiment comme. Tu vas arriver le vendredi, puis tes amis aussi, le vendredi, ils rient dans la salle, un peu comme tu dis, comme dans une émission de radio, parce que le monde s'encourage. C'est comme. C'est pas grave, il y a des gags. Là,
OK, fait que il n'y a pas une énergie de tension. Là,
non, pas... ça, les gens regardent pas le numéro des autres comme ça. Là,
ouais, ils sont pas. Ils critiquent pas, là. Ça.
Non, c'est plus la critique positive. T'sais, après les numéros, on donne des commentaires. Hey, je pense que tu aurais pu faire ça. T'as-tu pensé à telle option? Ça, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que tu pourrais même faire telle affaire de plus. Puis j'ai pensé à tel gag de plus. Ça, je pense que c'était moins bon pour telle raison. En tout cas, c'est ça. Fait que je pense que. Puis il y en a, tu sais aussi, pas que c'était pas compétitif, mais si tu t'en fous puis t'es pas bon, t'sais, ça se peut aussi. Tu feras pas ça dans la vie, là, si tu n'aimes pas ça dans ça, tu sais. Mais je pense qu'il y avait une. Tu sais, même que nous, notre ancien de tournée, il avait dit moi, je prends les meilleures présentations. Fait que là, vous allez tout écrire des présentations. Je ne ferai pas d'affaire de faut que tout le monde en ait une, ça soit juste. Non. Faites des bonnes présentations, les bonnes. Le temps. Puis ça, c'est sain parce que dans la vraie vie, c'est de même, ça marche.
Ouais.
Il n'y a personne qui va t'engager. Parce qu'il faut que tout le monde aille leur petit grain. Non, c'est pas ça. Genre, les gens engagent.
On va prendre
les gens
qui sont bons.
Ouais. C'est ça. Alors, personne.
Vous apprenez rapidement à vivre avec la pression un peu.
Ben, tu sais, je pense que c'est. Ouais, on peut dire ça de même, dans le sens que c'est comme. Est-ce que tu es capable de livrer la marchandise? Tu sais, il y a plein d'exercices. C'est comme, OK, je vous donne le numéro de telle autre personne, il faut que vous écrivez tant de gags pour la semaine prochaine. Pour que des numéros, pour des gars qui sont intégrés à son numéro. Ça, c'est ça notre job, là, dans le sens que c'est ça que tu peux faire dans la vie, écrire des jokes. Puis t'es comme, ah ben là, je sais pas, je suis capable de faire ça. Ben peut-être que ça se peut que c'est peut-être pas pour toi, ce métier-là. Fait que, tu sais, non, je pense, c'est ça. Fait que, ça pour dire, est-ce qu'il y a une compétition? Oui, il y en a une peut-être un peu sous-jacente, mais jamais malsaine parce qu'on est tous ensemble là-dedans, puis on est tous très mauvais à différents moments. Ouais. Puis on a des meilleurs coups, des bons coups. Puis au final, notre show de tournée, tout le monde a travaillé ensemble. Je pense que je connais pas toutes les histoires des shows de tournée, là, mais par définition, si tu vas voir un show d'école de l'humour, ça va être super inégal. Ouais. Par définition, c'est normal. Il y aura des gens qui vont faire comme Colin, il y a des gens qui vont faire wow, je pense que lui va être hot. Lui, j'ai vraiment aimé. Puis nous, notre show de tournée, tout le monde s'était aidé. Puis il y a beaucoup de gens là-dedans que nous, on savait ah, ben lui, je pense pas qu'il va en faire un métier. Tu sais, je pense qu'après l'école, je pense que ça va s'arrêter là. Mais son numéro tourné, il rentrait à chaque soir parce que les gens avaient écrit des gags, puis c'était aidé. Okay. Fait que ça, si le show il est meilleur, tout le monde gagne. Là. Mm. Si le show, si le numéro avant toi, il y a eu 5 minutes de fret,
ça va rentrer avec un fret.
Ouais. Je veux dire, oui, là, tu vas peut-être. Tu sais, s'il y en a qui vont dire, ah, tu vas bien paraître à côté. Ouais, mais le show, il a pris une drop, puis il faut revenir, il faut remonter après. Ouais. Fait que tout le monde s'est aidé, puis je pense que notre show de tournée, il était quand même relativement pas pire parce que. Plein de monde là-dedans que peut-être qu'ils font pas de l'humour aujourd'hui comme métier, mais leur 6 minutes, qu'on soit hors Saint-Pierre ou à Val-d'Or ou à Montréal, ils rentraient à chaque soir. T'sais. Fait que, bref, c'est
pas vrai. Mais t'en parlais un peu plus tôt, tu sais, t'as des gars comme J. Dutombe qui était de ta cohorte, puis Sam Breton qui peuvent vivre de ça, de leur humour. Est-ce que ça t'a déjà fait est-ce que t'as déjà eu des remises en question parce que t'étais pas rendu nécessairement au même niveau qu'eux autres?
Que c'était pas rentable?
C'est sûr que c'était pas en comparaison avec eux. T'sais, surtout, mettons, Sam, là, Sam Breton, il est connu depuis cette année du grand public. Avant ça, il était connu des fans de voix, mais il était pas tant connu. Jay, c'est parce que là, c'est rendu l'animateur d'OD, puis les gens connaissent de ça. Puis là, tu vas avoir un chèque de paye différent par conséquent. Mais Jay, à la base, c'est un gars de bar. C'est un gars qui animait 3 soirées. Mm-hmm. Il gagnait sa vie par l'animation d'un bar. T'sais. Fait que, quand on est sorti l'école de l'humour, il n'y a personne là-dedans qui était riche. Là. C'était jouer d'un bar, tester des jokes, jouer à chaque soir. Ce qui est tough dans ce métier-là, c'est la c'est-tu un mot, rejection en français? Être rejeté. Rejection. C'est de se faire rejeter. Dans le fond, c'est les moments les plus durs, c'est les auditions, moi, je trouve. C'est là les moments où tu es le plus down. Quand on a fait. J'avais fait des auditions, par exemple, pour SNL. Catherine a été prise, puis j'étais vraiment content pour elle, mais tu es comme. Ah, c'est sûr que tu aurais aimé ça, avoir cette opportunité-là, de faire même à ce moment-là. Mais. Je pense que c'est tout ce qui est les auditions, je trouve que c'est ça qui est le plus dur.
Juste pour rire, ils font des auditions aussi, je pense.
Au début, quand Juste pour rire faisait des auditions pour les gars-là, on n'avait même pas les auditions. Ils nous voyaient même pas en audition. Okay. Ils envoyaient des textes. Il y avait des auditions, puis après ça, ils coupaient, ils faisaient d'autres. C'est comme, on vous verra pas. T'sais, fait que t'es comme, je peux même pas montrer ce que j'ai fait. Fait que ça, c'était tough, mais moi, ce que j'ai trouvé le plus tough, puis les moments où t'es comme, je vais-tu me pendre, c'est vraiment les auditions pour des. Tu sais, que ce soit des gigs télé, ou des affaires où t'es comme, que c'est des gigs qui peuvent un peu être des game changers dans une carrière. C'est sûr que se faire dire non à répétition, cette affaire-là, ça peut être vraiment démoralisant. Puis ça, en plus, les comédiens le vivent 1000 fois plus, puis sont 1000 fois plus à la merci que ça que les humoristes. Les humoristes, on a toujours la scène, au moins. Je peux retourner chez nous puis écrire mes jokes puis je peux les jouer ce soir. Puis si je fais ça plusieurs fois, je vais avoir 1 heure de stock puis ça, je peux jouer. Tu sais, j'ai un certain contrôle sur ça. Alors que les comédiens...
Puis si tu es déjà arrivé, ton game changer, mettons, est-ce qu'il y en a un que tu évaluerais comme vraiment qui t'a aidé, qui t'a poussé à être plus connu ou une émission?
Non, que ça soit quelque chose comme une gig télé. Tu sais, faut que ça soit un SNL, un Like Moi, tu sais, qui l'a
fait par Audrey. Que tu restes là puis que tu le fais, OK.
Ça c'est, je pense, c'est ça que je considère vraiment des game changers. Sinon, pour moi, tu sais, d'avoir été en route 2014 ou ça, tu sais, ça t'aide, mais c'est pas des game changers qui fait comme OK, attends, là, maintenant, genre tout le monde en parle, t'invite, mais il y a 2 semaines, là, tu sais. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est ce genre de gig-là, mais tu sais, ça, c'est ce genre d'affaires. Tu peux pas penser à ça ou tu peux pas t'apitoyer là-dessus parce que t'as aucun contrôle là-dessus. Tu sais, c'est comme si un show de même qui arrive, ben oui, tu te prépares puis tu prends ça au sérieux, mais. Si t'es pris ou t'es pas pris, après ça, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Là, genre, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de me concentrer sur mon show, où je peux vraiment faire mon one-man show avec vraiment montrer qu'est-ce que je veux vraiment faire avec mon style d'humour à moi, pourquoi moi je fais ce que je fais. Après ça, les autres affaires qui rentrent, mais ça, c'est des. c'est des heureux accidents que tu faut, c'est des opportunités que tu saisis ou que tu saisis pas, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça.
On parle de Game Changer. On sait que Mike Ward, tu écoutes, en est souvent un pour les jeunes humoristes. Est-ce que toi, quand tu l'as fait, tu as vu dans tes statistiques, mettons, de ton podcast ou de ta page Facebook, tu as vu une augmentation? Est-ce que ça a été un petit Game Changer?
C'est drôle que tu dis ça parce que quand Mike a commencé le podcast, je n'étais pas au courant que c'était autant écouté que ça.
OK. Okay.
Tu sais, genre, après ça, j'ai compris que les humoristes, la relève, les humoristes, les open micers, comme pour eux, aller à Mike Ward, tu les écoutes, c'était genre... C'était ouais. Beau, ouais, c'était comme genre, t'es allé à sous-écoute, tu sais, j'avais ouais. Quelque chose à dire, j'étais pas conscient de ça, pour,
okay.
Peut-être vraiment naïvement, là, tu sais, mais, fait que je suis allé, mettons, trois fois, deux, trois fois.
Deux faciles.
Ah, c'est bon, ça.
Ouais, je pense que j'étais allé une fois avec Sam, une fois avec Jean-Simon Delisle, je pense, puis une fois avec Arnaud.
Okay.
Puis, sur vraiment 3, 4, 5 ans, si ça se trouve, sur 5 ans peut-être. Mais non, j'étais pas conscient. Puis, honnêtement, j'ai pas regardé mes chiffres. J'ai pas checké, genre, si j'avais eu plus de followers ou. Hey, tu sais, je veux dire, j'aurais sûrement remarqué. Mais après ça, il y a des gens qui me disent t'as ton podcast, mais moi, je l'ai écouté parce que quand t'es allé à sous-écoute.
Ben, moi, c'est là que je l'ai connu, honnêtement. Là.
Bon, tu vois,
c'est pain aux bananes que je t'ai connu.
Ah, ouais. C'était ma pub de show.
Ouais, mais j'ai essayé de la retrouver sur ton Facebook, je l'ai pas retrouvé. Ou c'était comme la
ouais, j'ai en fait elle est sur mon. C'est que ça, c'était une pub pour le ZooFest. Okay. C'est comme le compte du ZooFest qui l'a publié sur.
Ah ok, ouais, je comprends.
Sur c'est ça l'affaire, c'est que c'est comme associé à genre des dates de show. Fait que tu sais, ça a vieilli drôlement, mais je l'ai mis sur ma. Tu sais, je l'ai mis sur ma playlist sur YouTube. Tu peux faire ça. Là. Tu peux mettre okay. Un vidéo de quelqu'un sur ta playlist.
Ouais.
Sur ma page YouTube, tu peux le voir. Mais oui, puis j'avais fait une suite parce que j'avais fait le choix supplémentaire.
Ouais, c'est comme si Charles, ça y revenait, puis ouais.
Ouais, exact. Fait que ça, je pense que je l'ai mis ça. En tout cas, l'original, je sais qu'il est sur ma page YouTube, mais c'est ça, okay. C'est parce qu'il est sur le compte de ZooFest. En
tout cas, ça mélange, ouais.
C'est un peu mais, drôlement fait, là, mais ouais, voilà. Mais ouais, ça, c'était mon premier show solo en 2017. Fait que, mais tu vois, tu m'as connu par
ça. Ouais, ben c'était quand même, il y avait beaucoup de monde qui avait vu ça, là, ça se partageait, moi j'avais vu ça.
Ouais. Ouais, je me souviens, ça avait bien marché, tu sais, c'était...
On saisit tout de suite un peu ta dimension d'humour, c'est ça qui est le fun, parce que des fois, on dirait que les pubs, on dirait qu'ils essaient de présenter la personne ou l'humoriste, mais pas son genre, son style, puis là, t'arrives au show, puis tu fais « OK, c'est complètement différent », mais toi, on saisit tout de suite le côté de M. Bocage, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Quel genre d'humour que t'as, puis...
Une petite folie un peu dérangeante.
Non, mais c'est vrai.
On a parlé tantôt, ben c'est j'ai dit ce que tu avais fait jusqu'à maintenant, là, j'ai dit une couple d'affaires. Là, tu as dit que tu y pensais pas tellement, que tu avais même tendance à oublier certaines choses. On se transporte dans 5 ans. Qu'est-ce que dans 5 ans tu aimerais avoir fait que tu n'as pas fait pour l'instant? Ton one-man show, j'imagine?
Ouais, le show, c'est vraiment en ce moment le core. Parce que aussi, tu as dit dans 5 ans?
Ouais, 5 ans.
C'est ça. Fait que dans 5 ans, tu vois, le show, il sort en plus avec ce qui vient de se passer, ouais. Là, ça retarde. T'sais, littéralement, c'est comme si on avait fait pause d'un
an. Pendant
t'sais,
un
t'sais,
an.
Le ouais, temps... Tu vas reprendre tes rodages, tout ça.
T'sais, honnêtement, j'avais un rodage, moi, en avril, où je faisais vraiment une nouvelle heure de stock. Puis là, j'étais comme dans l'adrénaline, le sprint final. Puis honnêtement, probablement que je ne pourrais pas la faire avant avril 2021. Parce que là, les salles n'ouvriront pas pour vrai cet été. T'sais, ça commence tranquillement, mais ça ne sera pas du vrai rodage.
Là, le stock, il va changer, j'imagine, vu qu'on.
Et ça va aller à l'automne. À l'automne, il va-tu encore avoir des. T'sais, les soirées de rodage vont-tu reprendre? Ouais. Fait que finalement, ça va aller à 2021. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, tu peux pas arriver à faire une nouvelle heure de stock. Tu n'as pas joué depuis 6 mois. Tu n'as pas eu le temps de développer le matériel que tu étais supposé développer. Ouais. Fait que déjà là, ça veut dire que mon show, tant que je suis là, ça va vraiment être plus 2022-2023. En fait. Fait que dans le fond, fait que, tu vois, déjà juste dans 2-3 ans, c'est là que ça va nous amener pour mon show. T'sais. Fait que le timeline, c'est déjà ça. Fait que le show, c'est ça, c'est ma priorité. C'est vraiment l'affaire que. Je me suis dit, c'est s'il y a une chose que je veux faire, que je vais avoir 100% de contrôle, puis que je veux qu'il soit 100% à mon goût, puis à moi, puis.
C'est ton genre de show.
Mon show de rêve, là, si je peux le faire, c'est ça que je veux faire. Fait que le show, c'est vraiment l'affaire numéro un. Après ça, si le podcast, dans 5 ans, tu sais, le podcast, c'est une affaire qu'on savait pas, là, qu'on allait faire. Là, on a passé le cap des 100, les 100 épisodes. Si on peut en faire 100 autres, si on peut, comme je te dis, faire un autre voyage, on a des idées un peu de feature, de projet sideline avec ça, t'sais, que ça prenne un autre coche, ça serait vraiment cool. C'est sûr qu'il y a beaucoup de projets aussi là-dedans, beaucoup de projets sur lesquels on a moins de contrôle, mais il y a beaucoup de shows de télé que j'ai pitché, Tu sais, je veux dire, dans 5 ans aussi, tout au côté cinéma aussi, il y a des trucs qu'on a écrits que c'est pas qu'est-ce qui pourrait être débloqué ou pas, mais si j'ai fait au moins un court-métrage, si on a fait un long, ça serait encore
mieux. Projet avec Snake?
Un projet avec Snake,
je serais malade, c'est
Alex Pronovo, là.
Ouais, avec Alex, tu sais, Alex.
Ouais, parce qu'il y avait eu Tony Speed, c'est ça?
Ouais, le Tony Speed, c'était un short. Ça,
c'est Alex. Tu l'avais écrit?
Non, ça, c'était vraiment Alex.
Okay.
Moi, j'avais joué dedans, mais c'est ça, en ce moment, il y en a plusieurs que je suis en train d'écrire. C'est beaucoup ça que j'ai fait pendant la pandémie, vu que je ne pouvais pas faire de scène. Toutes les idées que j'étais comme, ah, j'aimerais ça faire telle affaire. Si
fait que tu as quand même eu beaucoup d'imagination, parce qu'il y en a pour qui la COVID puis le confinement, ça a tué leur imagination.
Ben, moi, ça m'a étranglé au niveau de la scène, parce que quand ça a arrêté, j'étais comme, ah, nice, j'ai du temps pour finir les tunes, ouais. Les trucs que je vais faire sur la scène. Puis là, j'ai réalisé, ah, mais ton cerveau te joue un tour, puis t'es comme, ah, non, c'est ça. En ce moment, ton cerveau il bloque parce que. C'est comme si je te dis, tu sais, fais du diabolo dans la tornade. T'es comme, ouais, mais il me semble qu'il y a une tornade. Ça a bloqué à ce niveau-là, puis ça me faisait chier parce que c'est comme frustrant. T'es comme, ah, j'ai plus de temps pour la scène, mais c'est comme du.
Mais tu vis rien, fait que, ouais, c'est ça.
Ouais, puis c'est comme, tu peux pas, tu sais, c'est un art vivant, l'humour. C'est pas comme un livre que t'écris, puis là, tu le remets. Tu sais, c'est comme, faut qu'il y ait un échange, faut qu'il y ait une certaine énergie. Fait que là, j'ai arrêté d'essayer de forcer quelque chose qui était visiblement. T'es pas fait pour ça à ce moment-là. Là, tranquillement, ça revient, puis je réécris des trucs, puis j'ai fait un show sur Wi-Fi comme ça, puis là, tu peux... Ah, toutes les idées que t'as eues, que t'as écrites pendant le confinement, tu peux les reprendre, puis comme les développer, mais pensant, j'ai juste commencé à toutes les idées que tu te dis, ah, j'ai ces idées-là, mais j'ai jamais le temps, parce que justement, la scène, quand tu fais ça, il faut que tu penses à ça tout le temps, là, t'sais, chaque seconde, comment tu peux l'utiliser, puis tout ça. Fait que toutes les idées de cours ou de long métrage que j'avais, j'ai vraiment plus développé ça, puis ça, j'aimerais s'en faire
un. Puis est-ce que tu, mettons, pour un long métrage, est-ce que tu penses passer par la SODEC ou tu vas autofinancer tout
ça? Bien, c'est ça. Maintenant, il y a plein de manières.
C'est avec Adib puis Julien qui ont fait leur propre film.
Exact. Honnêtement, c'est beaucoup des questions qu'on se parle avec les amis avec qui j'écrive, mais c'est là, les choses qui ont changé pour le mieux dans ce sens-là, c'est qu'on peut rejoindre les gens. Maintenant, on peut faire un teaser puis dire aux gens, voulez-vous voir ce film-là puis aller chercher de l'argent. Mais c'est ça, c'est... Mais bon, c'est parce que je rentrerais dans une brèche là, qui serait trop longue. Mais le financement des films, c'est vraiment un dossier complexe. Là, les applications.
Mais tu envisages tout, dans le fond.
Oui, tout est possible. Mais ça dépend toujours c'est qui est sur ton film. Si tu n'as pas X personnes, oublie ça, tu n'as pas de financement. C'est pour ça que des fois, il y a des films au Québec qui se font. Tu es comme. Sans qu'il n'est pas bon, ce gars-là, dans ce rôle-là. Mais s'il n'était pas là, le film n'était pas financé, carrément. Ouais. Fait qu'il y a comme toute une manière de procéder là, qui est un peu laborieuse et vraiment ennuyante pour le commun des mortels. Donc, pour ça, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais
non, c'est long. Là.
Tout est possible. Puis justement, comme tu le vois, ça change d'année en année. T'sais, mettons un Jay du Temple ou un Sam Breton qui devient connu une année. Mais l'année d'après, si tu mets son nom dans un pitch, ah ben là, ça change tout pour un diffuseur, pour un financeur. Fait que c'est ça. Fait que ça va se déterminer. Mais encore une fois, l'important, c'est, je pense, c'est la qualité du projet. Et est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais voir?
Ça doit aider après ça pour ton pitch de mettre, regarde, j'ai fait un court-métrage, j'ai joué
oui,
dedans.
Oui, exact, ça aussi. Puis il y a un cours, tu sais, c'est un cours aussi. C'est pas nécessairement 22 minutes. Là. Il y en a des fois, c'est juste un 9 minutes, mais un bon neuf, ça va vivre en festival. Des fois, même, il y a des gens qui sont financés, ils ont écrit un scénario, qui ont vraiment écrit un très bon scénario qui n'a jamais été tourné, mais ce scénario-là devient leur carte de visite. Puis là, il y a des producteurs qui font « Holy shit, il est vraiment bon, c'était le film-là que tu as écrit. On ne fera pas ce film-là, mais j'aimerais ça qu'on fasse tel film. » Puis là, tu te ramasses.
Ah ouais.
Tu sais, fait que ça, ou genre, il est cool, mais t'en as-tu un autre? Puis là, tu fais « OK, ouais, je voulais écrire ce film-là. OK, ben on va le développer avec toi. » Plein de portes peuvent s'ouvrir à plein de niveaux. Fait que, ouais. Ça, j'aimerais ça faire ça. Puis voilà. Puis en fait, j'aimerais ça que mon show devienne aussi un album. Parce que mon show de scène va avoir des tunes.
Okay.
J'avais déjà fait un mini-album. Mais
c'est comme variété un peu, comme spectacle d'humour?
Ouais, ben le mot variété n'est pas le bon, je pense. Mais
il y aura plusieurs choses, là.
Ouais, exact. Tu sais, il y a plein d'autres humoristes.
Ben, sans dire que c'est comme Rachid, mais tu sais, parce que Rachid, il va danser, il va chanter.
Ouais, non,
plus
moi.
Que du stand-up devant un micro, là.
Ouais, exact. Là, tu sais, si tu regardais des gars comme. Je sais pas si tu regardes des humoristes internationaux, genre Tim Minchin ou Bo Burnham ou des gars un peu de même qui ont des shows sur Netflix, si tu as la chance, ben, ils vont mélanger beaucoup de formes d'art à travers ça. qui est relié par l'humour. Donc, ça serait plus dans ce style-là que Rachid, mettons.
Ouais, non, non.
Mais je comprends ce que tu veux dire. Je
mais t'auras pas tes initiales, je sais, tout ça, mais...
Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est la seule affaire que j'ai, c'est ça. Non,
c'est, ouais, c'est ça.
Mais bref, fait que voilà, ouais. Fait que ça, c'est tout des trucs que j'aimerais faire. Puis, c'est quand même plein d'idées de projets, mais on sait pas, c'est comme des tracks, on sait pas lesquels vont avancer dans quel ordre. Mais ouais. Voilà.
Mais moi, je voulais savoir, est-ce que ça pourrait être une possibilité que tu ailles ton show télévisé sur le hockey en même temps, style humoristique un peu à la Kevin Raphaël?
C'est.
Genre après un match de hockey?
Ouais, encore une fois, il y a des trucs qu'on a pitché là, dans ces eaux-là. Qui... Mais pas comme Kevin, pas comme Kevin. C'est... Kevin, il y a vraiment un vibe à lui. Moi, ça serait. Que j'aimerais faire, j'ai pitché des shows comme ça, relié au hockey, mais ça serait plus proche du docu. Okay. Plus du docu.
Dans les courts-métrages RDS, dans ce genre-là? Ou...
J'ai pas vu.
Mais ça passe des fois, c'est comme juste des petits documentaires, mais ils appellent ça les courts-métrages.
Ok, j'ai plus joueurs. La télé, malheureusement.
Ok.
Ben, j'en ai une, mais j'ai pas le câble. Ah. Mais comme un bon millénial. Mais. Mais peut-être, je sais pas, j'ai pas le référent, mais ouais, plus quelque chose relié au docu, mais avec mon angle à moi, tu sais, de Red Sweet Tape, c'est-à-dire rigoureux, mais rigolo. C'est un slogan que j'ai.
Belle façon de.
Que j'aime, mais que je regrette aussi à la fois. Non, c'est ça, fait que c'est plus de ce temps-là. Tu sais, je pense qu'elle fait vraiment son affaire, puis on a vraiment des énergies complètement différentes, puis des approches vraiment différentes de la chose. Mais des projets reliés au hockey, j'en ai vraiment plusieurs.
Mais dans le fond, c'est que tu veux proposer un projet que tu as créé puis qui se fasse accepter, pas qu'une compagnie télévisée te propose un projet puis toi t'acceptes, dans le fond.
C'est un peu... les deux peuvent être cool parce que, tu sais, je veux dire, un gars comme. Tu sais, il y a des projets qui étaient comme ça, j'aimerais ça faire ça puis ça serait cool. Puis en même temps, comme je te dis, c'est difficile de d'être en long, mais ça se peut. Mais un gars comme, mettons, Marc Brunet, je veux dire, toutes les séries qu'il écrit, que ce soit. Le cœur a ses raisons, like moi. Ça, là, je veux dire, c'est de la grosse bombe.
Non, l'absurdité, ouais, c'est ça.
C'est de la bombe, là, je veux dire. Il y a un comédien, humoriste, peu importe, tu veux être là-dedans parce que c'est bon. T'sais, fait que l'idée, un peu, c'est oui, c'est le fun de faire ses propres projets parce que souvent, c'est là-dessus qu'on a du contrôle puis sur lesquels on sait dans. C'est ceux-là dans lesquels on sait dans quoi on est bon. Mais à la base, je veux juste faire partie de projets qui sont nice, qui sont bons. Puis Marc Brunet, tu vois, c'en est un qui écrit des projets. De luxe que
like moi, ça a vraiment fonctionné.
Ah ouais, vraiment. Puis c'était vraiment bon, c'est vraiment drôle. Puis il est vraiment drôle, Marc. Fait que toi, lui, c'en est un que c'est pas moi qui écrirais ça, mais ça me ferait plaisir de
le jouer. Ouais.
Sketch,
ouais. Ouais.
Les gars, y a-t-il un autre sujet sur lequel vous voulez embarquer?
Moi, personnellement, non.
Zach.
On a fait le tour pas mal, mais sinon, ouais. Pour vrai, c'était complet. Les réponses étaient. Ça accroche.
Excellente réponse, ouais. Excellente interview.
Les réponses sont très longues, je suis vraiment désolé, mais il y a souvent des petits A, petits B, petits C, petits D.
Non, mais c'est ça, mais tu te répètes pas, c'est ça.
Ouais, c'est ça l'important.
Excellent.
Tant mieux.
Toi, Zach, as-tu de quoi ou?
Non, je pense qu'on a fait le tour.
OK, ah, David, ouais. Y a-tu de quoi? S'il y a une chose que tu devais plugger là, qui s'en
ouais. Vient. Ouais. Où est-ce qu'on peut te suivre? Des choses.
En fait, je voulais juste parler du chandail des foreurs en arrière. Est-ce que c'est un peu des cigares gamaches?
Ouais, non, c'est pas... Non, mais c'est intéressant. Je l'ai eu en entrevue, Simon Gamache, il y a comme...
C'est vrai?
Ans. Ouais, ouais, il est très, très smart. Là, tu l'as-tu eu à ton podcast? Non, hein?
Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je veux l'avoir. C'est que... Je pense que j'avais eu un ami avec lui, mais je pense qu'il n'était pas au Québec à ce moment-là, Simon.
OK.
Mais on se jaserait, tu me l'enverras au podcast. Il doit être dans la région montréalaise, j'imagine.
Je sais même pas, honnêtement. Moi, quand je l'ai eu, c'est parce que c'était sa journée de son retrait de chandail à Val-d'Or. Moi, j'étais à Val-d'Or, là.
Oh!
C'est ça, puis c'était sa journée de retrait de chandail.
Ouais, une saison quoi? 160, 140 points?
Ouais, je pense que c'est 150, c'est autour de ça. Ouais, non, il était...
Il était en feu.
Il était solide, ça, Simon. Absolument. Et puis, un très, très bon gars. T'as des solides histoires, lui.
Ah, ben là, ça me fait plaisir. On se jaserait. Mais oui, ça fait longtemps que je veux l'avoir. Lui, je pense que c'était Olivier Latendresse, qui est le frère de Guillaume, était venu à mon podcast avant que notre podcast soit diffusé. J'avais fait des épisodes pilotes pour me pratiquer. Finalement, cet épisode-là, Olivier, je ne l'ai jamais mis parce que je pense que j'étais trop mauvais. Il faisait trop chaud dans le podcast. Ça, c'était catastrophique. Olivier était tout trempé. C'était vraiment gênant. Puis je pense que Simon, justement, lui, il connaissait. Mais tu sais, ça fait genre 5 ans là-dessus. Bref, puis Olivier, il arrête pas de me dire j'étais-tu si mauvais que tu le passes pas? Puis j'étais comme, non, c'était moi le premier. Puis j'arrête pas de dire que je vais le réinviter. Mais non, honnêtement, pour répondre à ta question, je suis sur Instagram, Facebook. C'est là que ça se passe. Moi, c'est vraiment mon show là, qui va sortir en rodage. Fait que si vous avez la chance, il y en a qui avaient acheté des billets, en fait, déjà. J'avais déjà des billets vendus pour le show d'avril.
T'es-tu remboursé ou ça reste
comme ça? Non, en fait, ça, tu gardes le billet. Okay. Évidemment, au début, on savait pas, c'était poussé à juin. On était comme, la pandémie va être finie, évidemment, complètement pas. donc, ça risque d'être allé à début 2021. Mais gardez votre billet, honnêtement, parce que le show va avoir lieu. Puis, je vais tester des nouvelles jokes plus d'autres nouvelles jokes. Puis, ça va avoir lieu, puis ça va aller comme ça. Tranquillement, mon show va se travailler, va devenir éventuellement un one-man show. Mais sinon, le podcast, Dread sur le tape, qui est sur toutes. Sur les plateformes où vous écoutez vos podcasts, 4 saisons. Le dernier épisode de la dernière saison, Guy Carbonneau, est passé au podcast. Très cool. Donc, saison 5. Habituellement, on est sous le modèle de la saison, là, d'octobre à avril. Là, je ne sais pas si on va l'être, mais que la saison, elle, ne sera pas là ou quoi. Ouais. Mais bref, à suivre. Mais ça va recommencer, c'est sûr, le podcast va continuer la saison prochaine. Mais non, Instagram, Facebook, toutes mes shows. Puis j'ai un channel YouTube. Puis s'il y en a qui veulent voir les sketchs ou des affaires comme ça, puis mes vidéoclips, un album de mini-tunes qui est sur Spotify, iTunes aussi, que j'ai sorti. Je pense que la dernière tune qu'on a sortie, c'était avec Pierre-Yves Roy de Desmarais pendant le confinement.
Ouais, c'est meilleur ami, là, l'histoire.
Oui, du... j'avais vu ça. Ah, ouais.
Fait que ça, c'est la dernière. Mais bref, c'est ça. Fait que allez checker ça. Si,
jetez-vous là-dessus. Vous... Hein.
Bon, ben parfait. On va aller suivre ça. Merci, Zach. Merci, Gamy, d'avoir été là. Et surtout, merci, David. Ça a été bien le fun avec tes longues réponses complètes. On appréciait ça. Les gens vont être entertainés. Merci beaucoup, les boys. Puis à la prochaine.
Merci, les boys. Merci, ça m'a fait plaisir. Puis bonne chance pour la suite. Puis j'espère vous revoir bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Yes, salut.
Salut.